Le cas du chêne vert, on avait évoqué l'idée des éclaircies et tu nous avais dit que tu en parlerais aujourd'hui.
Oui, voilà, donc merci. Ce que je vais vous présenter, c'est assez complémentaire de ce que vient de présenter Maxime. Enfin, moi, c'est sur le cas donc, particulier des éclaircies. Et donc, c'est des résultats obtenus sur le site expérimental de Puechabon qui ont été exploités, enfin, en particulier dans le cadre du projet Innovilex. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes ces derniers jours qui ont mentionné ce projet. Et voilà, c'est vraiment une étude qui a été menée pour le projet Innovilex et financée en grande partie par ce projet, en exploitant des données long terme sur le site. Donc voilà, donc le site expérimental de Puechabon, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. On en a parlé hier, c'est un site qui fait partie donc, du réseau européen ICOS. C'est un taillis de chêne vert assez caractéristique hein, de ce qu'on peut avoir dans le sud de la France. Et ce taillis a été coupé pour la dernière fois pendant la Seconde Guerre mondiale en 1942. Et depuis, c'est un taillis qui est ce qu'on appelle maintenant la libre évolution, en fait, puisqu'il n'a pas été réexploité, il n'a pas été géré, il n'a pas été éclairci. Et donc, c'est dans ce site qu'on a fait ces études. Enfin, donc, voilà, ça, c'est la tour à flux ICOS dont je vous ai parlé hier. Et on a d'autres dispositifs expérimentaux. On les a mentionnés rapidement hier, dont une expérience d'exclusion des précipitations qui est exactement similaire à celle de fond blanche que Maxime vient de présenter, donc avec des gouttières comme ça qui sont faites pour réduire les précipitations. Mais on a surtout aussi des expérimentations d'éclaircies. Alors ça a commencé dès les années 80. C'est Michel Ducret qui avait lancé ces expérimentations sur le site de Puechabon. Et justement, l'idée, c'était de se dire, bah voilà, on a ce taillis maintenant qui a plus de 40 ans, qui n'a pas été coupé, alors qu'avant, on avait des fréquences de coupe de 25 à 30 ans. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire de ces vieux taillis qui étaient, dans les années 80, déjà dans une situation inédite par rapport à leur histoire, puisqu'il n'y avait plus d'exploitation du chêne vert pour le bois de chauffage. Et donc il y a eu une expérimentation d'éclaircies avec 5 intensités d'éclaircies qui nous ont beaucoup servi en fait pour tirer des conclusions dans le cadre du programme Innovilex. Et donc je vais aujourd'hui comparer les résultats de cette expérience vraiment historique, on va dire, avec des résultats un peu plus récents qu'on a eu dans l'expérience d'exclusion des pluies. Donc en fait, quand je parle d'éclaircies aujourd'hui en taillis de chêne vert, je parle d'une éclaircie par le bas. Donc, c'est-à-dire que c'est une éclaircie qui consiste à couper les tiges dominées, à couper aussi le sous-bois. Donc voilà, ça, vous avez en gros la parcelle avant éclaircie, la parcelle après éclaircie, ça revient à ça. Donc on supprime les espèces de sous-bois, les buis, les genévriers, les filaires, les choses comme ça. On supprime aussi donc les tiges dominées, en essayant, autant que faire se peut, de garder quand même au moins une tige par souche. Parce que si en fait on coupe toutes les tiges sur une souche, là à ce moment-là on a des rejets. Donc en fait au lieu de réduire la densité, on se retrouve avec exactement le truc inverse, c'est-à-dire qu'on a une explosion de la densité du nombre de tiges, puisqu'il y a plein de rejets. Ça stimule le rejet de souche. Donc le but c'est de garder voilà, en gros une tige par souche et de supprimer les brins les plus petits. Et donc l'expérience qui a été menée en 85, il y avait 5 intensités différentes, de 0 à 80%. Et ensuite, on a répliqué une partie de cette expérience en 2003 avec juste une éclaircie à 30% de la surface terrière qui a été croisée avec la diminution des précipitations à 27%. Donc voilà, ça c'est pour les protocoles. Donc je vais commencer pas dans l'ordre chronologique en fait. Je vais commencer par vous présenter les résultats de cette expérience-là en fait sur l'éclaircie donc 30% de la surface terrière par le bas. Ce qui voilà, parce que aujourd'hui donc c'est les journées sur la consommation d'eau des forêts, donc on va parler de l'eau, donc je vais pas vous présenter non plus tous les résultats. Donc pour ce qui est de l'eau, dans ces parcelles, on a des mesures de la transpiration des arbres. Donc ça, c'est avec les capteurs dont j'ai parlé hier, pour ceux qui étaient là. On met des capteurs directement à l'intérieur des troncs des arbres, ce qui nous permet de mesurer la vitesse de la sève et de mesurer la consommation d'eau individuelle des arbres. Et après, on sait combien on a d'arbres dans la parcelle. Et donc, si on fait ce calcul, on voit qu'on a une transpiration annuelle des arbres dans le traitement témoin, donc qui est aux alentours de 350 mm en moyenne, et qu'on a une diminution de 27% de la transpiration du couvert, de la transpiration du peuplement, quand on éclaircit 30% de la surface terrière. Donc, on a là, à ce niveau-là, une quasi-proportionnalité. En fait, ce qui est lié à une diminution d'environ 25% de la surface foliaire. Donc en fait, Nathalie Breda en a parlé ce matin, a défendu l'intérêt de mesurer la surface foliaire. Il se trouve que là, dans notre cas, c'est juste après une éclaircie. Donc on a une évolution à peu près comparable entre la diminution de surface terrière et la diminution de surface foliaire, puisqu'on enlève 30% de surface terrière, on enlève 25% de surface foliaire. Mais il est évident que c'est un peu le cas particulier d'après un traitement sylvicole. Sur le long terme ou entre peuplement, c'est vraiment très important de considérer la surface foliaire. Et donc nous, on explique cette diminution de 27% de la transpiration par la diminution d'à peu près du même ordre de grandeur de la surface foliaire, puisqu'en fait, c'est exactement les mêmes chiffres. On est dans l'ordre de la barre d'erreur. Là. Donc voilà, ce qu'on en conclut aussi, c'est que la transpiration du chêne vert par unité de surface foliaire reste à peu près stable, en fait. C'est-à-dire que c'est parce que les arbres ont moins de feuilles qui consomment moins d'eau. Mais donc du coup, si le but, c'est d'économiser l'eau et c'est d'avoir une plus d'eau bleue, puisque voilà, on va dire que c'est ça l'objectif, en éclaircissant le taillis, on se retrouve avec plus d'eau disponible. Si on regarde maintenant donc la croissance, donc ça c'est pour l'autre expérience. Alors je saute un peu du coq à l'âne, mais ça c'est expérience historique, on va dire. On avait les 5 niveaux d'éclaircie de 0 à 80%, et qu'on regarde la croissance moyenne annuelle des arbres sur la période. En fait, on voit, donc c'est exactement les mêmes résultats que ce que montrait Maxime, hein, on voit qu'on a une augmentation de la croissance avec le niveau d'éclaircie, qu'il n'y a pas de saturation de cet effet, puisqu'en fait, plus on éclaircit, bah, plus on stimule la croissance. Et donc ça, c'est les résultats au cours du temps. Alors le graphique n'est pas forcément très, très joli, très clair. Ce que ça montre, c'est que ça stimule la croissance, surtout les premières années, bon, ce qui est logique, et qu'après cet effet disparaît au cours du temps. Mais malgré tout, à notre grande surprise, on avait encore un petit effet, alors qui est très faible, hein, par rapport à ce qu'il était à l'origine, mais on avait encore un petit effet sur la croissance, même après 30 ans, puisque là, c'est les données que je vous présente de 1985 à 2015. Donc voilà, on a une stimulation de la croissance des arbres par l'éclaircie, bon, ce qui est un résultat assez classique. Maxime l'a dit, hein, plus on arrose et mieux ça pousse, enfin plus il y a d'eau et mieux ça pousse. Et là, en fait, on considère que d'avoir diminué la surface terrière, comment on réduit la compétition pour l'eau, il y a plus d'eau disponible pour les arbres restants. En fait. C'est toute l'hypothèse qui est derrière cette expérience. Alors pourquoi, maintenant si on rentre un peu dans le détail de la physiologie, en fait, comment on explique ça? Là c'est des données que je vous montre, donc c'est sur l'année 2007, qui est une année qui a été choisie parce que ça poussait bien. C'est des mesures qui sont faites avec ce qu'on appelle des dendromètres automatiques. C'est-à-dire qu'on a des capteurs comme ça autour des troncs qui mesurent tous les jours la croissance des arbres. Donc là, ça nous permet de mesurer au cours de l'année vraiment la croissance à l'échelle journalière. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le chêne vert pousse de cette façon-là. Il pousse pendant deux périodes dans l'année. Il pousse au printemps et à l'automne. Et en fait, il pousse surtout au printemps. En moyenne, on a 70% de la croissance annuelle, certaines années même la totalité de la croissance annuelle, qui se produit au printemps. Alors, il ne pousse pas pendant l'hiver parce qu'il fait trop froid, on appelle ça la contrainte thermique sur la croissance, et il s'arrête de pousser complètement pendant l'été. On voit, il y a un niveau de croissance là qui est ici complètement plat, pendant les périodes où il y a du stress hydrique. Parce qu'en fait, le stress hydrique, l'une de ses premières conséquences, c'est d'arrêter la croissance. Et donc là, c'est vraiment un effet seuil, en fait. On arrive à un seuil, à un niveau de stress hydrique, et dès qu'on dépasse ce seuil, l'arbre ne peut plus pousser, il s'arrête, voilà. Et donc la croissance s'arrête, et après, dès qu'il repleut à l'automne, on voit que la croissance repart. Et donc en fait, ce qu'on voit aussi, un autre résultat important, c'est que la vitesse de croissance, par contre, pendant le printemps, est à peu près constante et linéaire. Il y a des petites fluctuations, mais... Donc en gros, ce qu'on a montré avec ce type de résultat, c'est que la croissance totale annuelle, la quantité de bois que produisait l'arbre, était vraiment directement proportionnelle à la durée de croissance au printemps. C'est-à-dire, si l'arbre au printemps peut croître pendant plusieurs mois, bah, il pousse beaucoup. Si au contraire on atteint ce seuil de sécheresse très rapidement, dès la mi-juin, et ben, l'arbre n'a que quelques semaines pour pousser, et du coup il pousse beaucoup moins. Et donc c'est vraiment la durée, la précocité de la sécheresse, en fait, plus que l'intensité de la sécheresse en elle-même, qui va avoir un effet majeur sur la croissance des arbres, si ce qu'on regarde c'est la production de bois et la croissance. Et donc justement, si on regarde maintenant l'effet de l'éclaircie sur le stress hydrique, donc là je vous ai présenté des résultats pour deux années assez contrastées, une année plutôt très humide pour la région méditerranéenne, une année sèche. Vous avez en bleu donc les données pour le traitement témoin, et en vert les données pour le traitement éclairci. Et alors en fait, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est qu'on voit donc le seuil d'arrêt de croissance, c'est la ligne rouge que je vous ai mis ici. Elle est légèrement en dessous de -1 mégapascal de potentiel hydrique. Et donc dès qu'on atteint ce seuil, c'est le moment où les arbres s'arrêtent de pousser. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que pour les deux années, malgré le fait qu'elles aient une climatologie contrastée, pour les deux années, en fait, le seuil est dépassé pour le traitement témoin avant de l'être pour le traitement éclairci. Donc en fait, le fait d'avoir fait l'éclaircie, comme les arbres consomment moins d'eau parce qu'ils ont moins de surface foliaire, pour un même volume d'eau dans le sol, en fait, ils utilisent cette eau plus lentement. Donc ils arrivent au moment où l'eau du sol est épuisée et où on entre en stress hydrique plus tard. Donc c'est vraiment un effet d'étendre le volume d'eau du sol, la consommation d'eau du sol sur une période plus longue qu'on observe. Et alors, un autre point qui est intéressant, c'est qu'en fait ça retarde l'arrivée de ce seuil de stress hydrique. C'est-à-dire que l'arrêt de croissance se produit plus tardivement, par contre ça n'a pas d'effet sur le stress hydrique maximum observé pendant l'été. Donc voilà, c'est vraiment pour vous illustrer que c'est pas tant l'intensité maximum du stress qui compte ici pour nous, que vraiment la précocité du début du stress hydrique qui va jouer sur la croissance. Et alors après, donc là, c'est des résultats de simulation de bilan hydrique. Alors en fait, il faut voir ça, c'est exactement... pas exactement, parce que sinon c'est la même philosophie que ce qu'a présenté Arsène ce matin pour calculer la réserve utile, où il disait, ben voilà, je prends mon modèle, je lui prescris une surface foliaire, une biomasse, une espèce, et je calcule quelle est la quantité d'eau qu'il faut dans le sol pour que mes arbres survivent sur un site donné. Ben nous, on a fait la même chose, enfin, on a fait l'inverse en fait. On a prescrit la réserve utile du sol, puisque c'est sur le site de Puy-Chabon, on l'a bien caractérisé, c'est un site qu'on connaît. On a prescrit la... Enfin, on a calculé le fonctionnement des arbres, et en fait, ce qu'on a fait varier, c'est l'indice foliaire. Donc en fait, on a calculé le bilan hydrique pour chacune des années, donc toutes les lignes grises ici, c'est les 30 années de données de 1985 à 2015. Donc on avait les données météo sur notre site pendant 30 ans, et on a fait tourner pour les 30 ans le modèle de bilan hydrique en faisant varier toute la gamme d'indices foliaires. Donc entre un indice foliaire à 2,5 et un indice foliaire ici à peine plus de 0,5. Et en fait, et les points ici correspondent à nos différents niveaux d'éclaircie. Donc en fait, dans le couvert non éclairci, on a un indice foliaire qui est aux alentours de 2,5 pour le chêne vert. Là, c'est l'indice foliaire du chêne vert. Et après, bah voilà, en fonction des coupes, on diminue cet indice foliaire. Et en fait, ce qu'on a simulé, c'est la date d'arrêt de croissance. Donc là, c'est ici, c'est les jours de l'année. Donc en fait, plus on a des chiffres importants, plus on est tard, et plus la date à laquelle on atteint ce seuil de stress hydrique est tardive. Alors on a plafonné à 300, parce que de toute façon, 300, c'est déjà l'automne, et c'est le moment où les arbres s'arrêtent de pousser de toute façon à cause de la contrainte thermique de l'hiver suivant. Et donc ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est qu'on a calculé la croissance des arbres comme la différence entre la date moyenne de début de croissance, qui est la ligne pointillée ici, et la date d'arrêt de croissance ici. Donc on a pour le traitement témoin une durée ici qui est d'environ 40 jours en moyenne pour les années. Et donc on a fait ça pour tous les niveaux d'éclaircie. Et donc ça nous permet, pour un site avec une réserve utile donnée, de calculer un niveau d'éclaircie optimal. Maxime a parlé qu'il y avait un niveau d'éclaircie optimal pour maximiser la croissance par rapport au stress hydrique, ben voilà, c'est à peu près ça qu'on voit. Parce que si on n'éclaircit pas assez, si on est ici, il y a des années, certaines années les plus sèches, où en fait la date d'arrêt de croissance se produit même avant le début. C'est-à-dire qu'il y a tellement de stress, le stress est tellement précoce, que les arbres ne peuvent pas pousser. Et c'est vrai qu'on a eu certaines années, typiquement l'année 2006 en était un bon exemple, l'année 2023 est bien partie pour être dans cette catégorie, où les arbres ne pourront même pas pousser parce qu'on est en stress hydrique avant même que la phénologie de croissance puisse démarrer. A l'inverse, si vous êtes ici, si vous éclaircissez trop, ce qui se passe, c'est que vous avez plein d'années où finalement vous n'atteignez jamais le stress. Et donc ça veut dire qu'en fait vous n'avez pas assez de charge d'arbres à l'hectare, vous n'avez pas assez d'arbres sur votre parcelle, vous avez de l'eau en excès. Quoi. Les arbres ne sont même pas assez nombreux pour consommer toute l'eau. Et donc le point d'inflexion entre les deux, où on passe d'un moment où on a la croissance qui est limitée par le stress hydrique, à un moment où au contraire on n'a plus assez d'arbres, ben on considère que c'est le niveau d'éclaircie optimal. Et c'est un modèle qui est assez grossier mais qui finalement marche assez bien. Puisqu'on reproduit, on arrive à simuler avec simplement donc, du bilan hydrique. Là, il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de physiologie de croissance, il n'y a rien, il n'y a que du bilan hydrique. On arrive à simuler, à expliquer plus de 80% des variations moyennes de croissance des peuplements entre les différentes parcelles. Donc voilà, c'était un exemple d'application d'un modèle de bilan hydrique pour prédire la croissance, et c'est quelque chose qui a été mentionné par plusieurs personnes, Nicolas Martin, Julien Ruffour en a parlé ce matin, donc voilà, c'est un peu ce genre de choses qu'on peut faire avec simplement du bilan hydrique. Donc pour présenter d'autres résultats, donc ça c'est, là je reviens dans l'autre expérience, celle où on croise l'éclaircie avec la diminution des pluies de 30%, Donc vous avez les quatre traitements, le témoin, le traitement sec, donc moins 30% de pluie, le traitement éclairci, moins 30% de surface arrière, et le traitement où on fait les deux en fait. On a moins 30% de surface arrière et moins 30% de pluie. Et en fait ce qu'on voit, c'est que finalement l'effet de l'éclairci annule complètement l'effet de la diminution des pluies. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans le traitement éclairci, qu'on soit ou pas avec moins 30% des pluies, en fait, on a une croissance moyenne des tiges qui est quasiment multipliée par deux. On a une résistance à la sécheresse. C'est ce que je pense, que c'est la même chose que ce que Maxime appelait plutôt résilience. Mais enfin, on a une, par exemple, sur une année très sèche comme 2006, c'est la croissance dans le traitement éclairci en pourcentage de la moyenne du traitement témoin. Et donc, on voit que même ces années particulièrement sèches, on a une croissance qui continue à être stimulée. Et pour ce qui est de la mortalité, elle est quasiment nulle. Mais voilà, là c'est parce qu'on a aussi éliminé les tiges les plus faibles. Donc voilà, donc ça c'était un peu, donc voilà, ça c'est, je vais conclure là-dessus, c'est ce qu'on avait montré sur les effets bénéfiques de l'éclaircie, y compris en conditions de sécheresse aggravée. Donc ça c'est les résultats finaux pour le site de Puchavon du projet Inovilex, qui ont d'ailleurs déjà été publiés dans la revue Forêt méditerranéenne en 2018. Et donc ce qu'on voit, c'est que par rapport au traitement sec, donc qui est les barres oranges, les traitements éclaircis, ça c'est éclairci et éclairci sec, dans tous les cas, en fait, on a une diminution de la surface foliaire. Par contre, dans le traitement sec, on a une forte diminution de la production de glands, alors qu'elle est stimulée dans le traitement éclairci, et que quand on fait éclairci plus sécheresse, là par contre, on revient à une équivalence. Pour ce qui est de la production de bois, elle est stimulée dans les deux traitements d'éclairci, y compris quand c'est plus sec. Et donc au niveau de la productivité, finalement, on ne voyait pas d'effet significatif quand on prenait la productivité totale de l'écosystème, puisque finalement la plus forte production de bois, enfin, qu'on pensait. Et pour ce qui est de la transpiration, voilà, on a aussi une forte diminution de la transpiration dans tous les traitements. Et dans les traitements, on va dire dans les traitements normaux, secs, c'est une diminution de la transpiration qui est subie. C'est-à-dire que les arbres transpirent moins parce qu'ils ont moins d'eau disponible, ils sont obligés de fermer leurs stomates. Alors que dans les traitements éclaircis, c'est une diminution qui est liée à la plus faible surface foliaire et densité du couvert. Donc voilà, je vais m'arrêter là et remercier donc toute l'équipe qui a participé à ça et tous les gens du programme Inovilex.
Merci. Merci Jean-Marc. Voilà encore une communication positive. Ce travail est vraiment intéressant et porteur de pistes, d'itinéraires pour l'avenir et pour rendre les taillis de chêne vert plus résistants, plus productifs, plus etc. Longue vie à Inovilex et à toutes les recommandations qu'il préconise. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, Maxime nous faisait languir sur la question de diversifier les peuplements et de mélanger les espèces d'arbres.